La vie culturelle avec Charlie Pless sur Radio Alpa.
On parle à présent de la programmation des Quinconces l'Espal avec la pièce de théâtre Les Deux Déesses qui sera jouée à l'Espal le 5 et 6 novembre. Et nous sommes avec la metteuse en scène Pauline Salle. Bonjour.
Bonjour.
Alors Les Deux Déesses, c'est une revisite d'un mythe grec, l'histoire de Déméter et Perséphone. Est-ce qu'on peut tout d'abord rappeler l'histoire originale ?
Oui, mais alors je vais être très bref parce qu'autrement nous en aurions presque pour toute une journée. Le mythe de Déméter et Perséphone, il est connu parce qu'on dit que les saisons sont nées ainsi. Et c'est donc le rapt de Perséphone par Hadès, le roi des enfers, le dieu des enfers. Et elle est donc recherchée activement, ardemment par Déméter, sa mère, pendant 9 jours et 9 nuits à travers toute la terre et la mer, avant que Déméter comprenne que sa fille est aux enfers. Et là, elle va arrêter de faire tout pousser sur la terre, Déméter étant la déesse de la terre, comme son nom l'indique. Et Zeus est obligé d'aller la voir. Déméter lui dit « il faut me rendre ma fille ». Zeus envoie Hermès chercher la fille aux enfers. Et Perséphone mange 7 grains de grenade. Or, qui a mangé du fruit des enfers devra y retourner. Et à partir de ce moment-là, il y a un compromis qui est trouvé entre Hadès, Zeus et Déméter. Perséphone sera 3 mois de l'année aux enfers. Et à ce moment-là, ça correspondra à l'hiver. Déméter ne fera plus rien pousser sur la terre. Et le reste du temps, elle sera avec sa mère. Et ça donnera l'automne, le printemps et l'été.
Est-ce que votre pièce modifie ce récit ? Comment est-ce que vous vous emparez de ce mythe, en fait ?
Alors, comment je m'empare de ce mythe-là ? Non, je ne modifie pas la trame du mythe, qui est encore une fois beaucoup plus complexe et mouvementée que ce que je viens de vous raconter. En revanche, je modernise, si on peut dire, cette histoire, puisque ce mythe, qui a donc été écrit 5 siècles avant Jésus-Christ, va se passer aujourd'hui. Et nous allons rencontrer une Déméter et une Perséphone contemporaines.
Pourquoi ce choix de se ressaisir d'un mythe ? Que vous apporte le mythe d'un point de vue théâtral ?
Ah, le mythe, on sait que ça a apporté énormément au théâtre, hein, puisque tous les mythes ont donné lieu à des pièces absolument splendides qui sont jouées et rejouées depuis l'Antiquité. Et puis, il y a eu beaucoup de réécritures de mythes. Moi, ce qui m'a un peu étonnée quand j'ai découvert un peu par hasard le mythe de Déméter et Perséphone en lisant un livre d'écoféminisme, c'est que ce mythe ne soit pas davantage justement utilisé et réadapté, alors que des mythes comme Orphée et Eurydice ou le mythe d'Oedipe, voilà, sont des mythes dont on a de nombreuses réécritures. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant de se pencher sur ce duo mère-fille qui a eu énormément d'importance à l'Antiquité, vraiment, et on a rendu un culte à ces deux déesses pendant 5 siècles. Et puis, avec la montée du christianisme, eh bien, c'est assez étonnant de se dire que une mère et sa fille ont finalement laissé place à un père et son fils. Et je trouvais ça donc important de redonner à entendre cette histoire et de la réactualiser.
Un mythe qui se concentre sur deux personnages féminins qui s'opposent à un personnage masculin omnipotent, c'est l'occasion d'aborder des thèmes contemporains ?
Tout à fait, vous avez raison, c'est complètement l'idée d'aborder des thèmes contemporains, notamment celui que vous signalez dans votre question, qui est en fait, ou votre remarque, qui est en quelque sorte la domination des hommes sur les femmes. Et c'est vrai que c'est le cas dans Les Deux Déesses. Après, que ce soit la mère ou la fille, elles arrivent à s'affranchir de cette domination masculine et à trouver l'une et l'autre de manière très différente la possibilité de reconquérir leur place dans le monde et de trouver leur voie.
Qu'est-ce qu'ils symbolisent aujourd'hui, ces personnages de Déméter, Perséphone et Hadès ? J'imagine qu'il ne s'agit plus de la valeur explicative que vous évoquiez tout à l'heure, pardon, qu'on dépasse la simple analogie avec le cycle des saisons.
Non, vous avez tout à fait raison. Ça, c'est vraiment, on va dire, la petite anecdote. Et le mythe en soi est beaucoup plus fort. Il y a en effet les rapports hommes-femmes qui sont interrogés. Il y a aussi cet amour, finalement, dont on parle assez peu, qui est une grande histoire d'amour entre cette mère et cette fille. Il y a aussi, c'est aussi Déméter et Perséphone, une famille monoparentale. Et finalement, c'est assez étonnant de se dire que... voilà, 5 siècles avant Jésus-Christ, elle existait déjà et qu'elle est toujours aussi importante aujourd'hui. Il y a aussi la relation à la nature, puisque Déméter, c'est la déesse de la terre. Donc aujourd'hui, avec tout ce qui se passe pour notre planète, c'était aussi important de réinterroger cette place, cette déesse. Et puis, il y a également l'apprivoisement de la mort, puisque... on oublie trop souvent que Perséphone va devenir la déesse des enfers et que finalement, ce culte qu'on rendait à ces deux déesses pendant 3 jours, ça s'appelait les mystères d'Éleusis, c'était aussi la possibilité d'être bien accueilli au pays des morts. Et la mort reste encore quand même quelque chose qui fait peur à beaucoup de gens. Et c'est la manière dont Perséphone apprivoise la mort, c'est écouter les morts et c'est nous accueillir au pays des morts. C'est aussi une chose intéressante dans ce mythe qui méritait d'être redit et actualisé.
Alors tout à l'heure, vous avez mentionné le terme d'écoféminisme. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ?
Alors, l'écoféminisme, je n'en suis pas une spécialiste, mais j'ai donc lu l'anthologie d'Emily H. qui s'appelle « Reclaim ». Et elle parle de ces femmes... c'est un mouvement qui est né aux États-Unis à peu près dans les années 80, 1980, où plusieurs femmes se sont battues contre le nucléaire et apportaient différentes manières de manifester ensemble. Et donc, moi, j'ai lu les écrits de Starhawk, qui se nomme une sorcière, dans la nouvelle, on peut dire, définition de ce mot. Et elle l'a redécouvert un peu ce mythe de Déméter et Perséphone. Elle trouvait que c'était très important de savoir convoquer les déesses quand on manifeste comme ça pour la nature.
Dans les textes qui vous ont inspiré, vous citez « Libre comme une déesse grecque » de Laure de Chantal, ainsi que « La sauvagerie maternelle » d'Anne Dufour-Mantel. Qu'est-ce que ces textes vous ont apporté ?
Eh bien, je pense que quand on se met comme ça à écrire une pièce sur des sujets très anciens, on a besoin de se nourrir de mille et une manières. Et c'est dans ce sens que ces textes m'ont aidé. La sauvagerie maternelle d'Anne Dufour-Mantel, c'est un grand texte sur l'amour maternel. Et notamment, ce que je trouvais assez fascinant, c'est elle parle très bien des tout premiers moments qui se passent de mots, qui sont vraiment du pot à pot ou du cri à cri, ou entre la mère et l'enfant, et tout ce qui se passe dans ces tout premiers moments de l'une à l'autre, puisque là, c'est mère et fille. Et dans « Libre comme une déesse grecque », ce que montre bien l'autrice, c'est la liberté et l'indépendance et le grand féminisme, finalement, de toutes les déesses. Et c'était assez important de le souligner, d'autant plus qu'elles sont souvent quand même assez instrumentalisées par les hommes ou les dieux, mais que l'air de rien, elles ont une grande force d'inspiration parce qu'elles arrivent toujours à se relever, si je puis dire.
Le grand féminisme des déesses, c'est-à-dire, est-ce que vous avez des exemples ?
Eh bien, par exemple, enfin, honnêtement, Déméter et Perséphone, venez voir et vous verrez comment elles arrivent à, encore une fois, l'une et l'autre à trouver leur place et à dire non aux dieux, puisque finalement, Déméter, tout d'un coup, elle va faire un chantage où elle va tenir tous les dieux et tous les hommes dans sa main à partir du moment où elle ne veut plus aider les hommes ni les femmes à cultiver si on ne lui rend pas sa fille. Et à ce moment-là, elle a vraiment les deux mondes dans sa main, la terre et les dieux, puisque sans homme, plus de dieux.
Alors, on va aborder des questions de forme. Scéniquement, comment va se présenter ce monde mythique ?
Alors, ce monde mythique, il va vraiment se passer aujourd'hui. On va faire la connaissance d'une très vieille Déméter qui est une dame âgée, comme celle qu'on peut rencontrer dans les EHPAD, comme nos mères, nos grands-mères, nos arrière-grands-mères. Elle semble souffrir d'une maladie dégénérative, type Alzheimer. Et puis, on voit qu'il y a des musiciens autour d'elle. Et vous savez, on dit que la mémoire auditive est celle qui perdure le plus longtemps. Et donc, il y a pas mal de chercheurs qui travaillent comme ça avec des malades sur des morceaux de musique qu'ils ont pu entendre durant leur jeunesse ou leur faire écouter des sons, des hommes politiques de leur temps, etc. Et ces hommes et ces femmes qui ont l'air assez perdus retrouvent un peu quelque chose de leur mémoire grâce à cela. Et c'est un peu le même principe qu'on a sur scène, c'est-à-dire ces musiciennes et musiciens vont faire écouter des sons, des musiques à cette vieille Déméter, et elle va parvenir à nous faire revivre des bribes de son passé et à nous faire rentrer dans son enfance sur l'Olympe avec ses frères Zeus et Poséidon. Et donc, la pièce va commencer comme ça. On va rentrer dans le petit théâtre de Déméter et on va la découvrir adolescente.
Effectivement, la musique a une place importante dans la pièce. Comment est-elle envisagée, cette musique? Ce sont des compositions ou bien les musiciens improvisent sur scène?
Alors non, ce sont donc quatre musiciens, deux musiciennes, deux musiciens. On a une violoniste, une batteuse, un guitariste et un pianiste. Et ils composent à la fois la musique des chansons, puisqu'en quelque sorte, il y a quelque chose qui reprend un peu les codes de la comédie musicale.
D'accord.
Il y a vraiment 10 chansons dans le spectacle qui sont interprétées par des personnages et qui sont aussi bien des gros plans sur des sentiments que quelquefois des actions qui nous sont racontées en musique. Et puis, il y a des nappes musicales, des choses qui sont nées d'improvisation mais qui sont maintenant écrites et qui vont plutôt nous parler d'espace psychique, on va dire, des personnages, ou aussi nous donner des espaces scénographiques.
La musicalité s'immisce jusque dans le texte des comédiens. On est sur une langue poétique rythmée. Est-ce qu'il faut y voir une sorte d'incantation rituelle pour rester dans l'univers du mythe?
De temps en temps, peut-être que c'est le cas, mais de temps en temps, c'est vraiment une langue aussi très concrète, très triviale, très contemporaine. C'était un peu le défi de mêler justement dans la langue des choses très prosaïques, vraiment du quotidien d'aujourd'hui, et puis d'arriver à aller dans une poésie plus intemporelle, plus universelle, et de temps à autre, de convoquer en effet les dieux.
Est-ce que c'est un moyen de renouer avec le théâtre antique et son coryphée?
Alors oui, le coryphée, là, il est vraiment le rôle du coryphée, du cœur, des habitantes et des habitants de la cité. Il est vraiment tenu par les musiciens qui interrogent un peu cette dernière Déméter pour qu'elle puisse nous révéler toute son histoire et tous les sens de cette histoire.
Pourquoi cette association entre théâtre et musique qu'on trouve de plus en plus fréquemment dans le théâtre contemporain?
Vous avez raison, c'est vraiment quelque chose qu'on voit énormément. J'avoue que c'est la première fois pour ma part que je tente cette aventure. Ça me semblait important dans cette histoire de Déméter et Perséphone parce que j'avais l'impression qu'il fallait s'éloigner du naturalisme. C'était tout d'un coup une pièce qui était davantage comme une grande épopée et que la musique nous aidait à franchir ce cap et qu'elle nous permettait d'aller dans des endroits, encore une fois, très, très différents. Et de pouvoir convoquer beaucoup d'univers et de nous éloigner du naturalisme.
Alors vous dites qu'il faut échapper au naturalisme, mais c'est parce que vous avez réactualisé le mythe dans le monde aujourd'hui que l'on est-ce que du naturalisme existe. Alors quel est l'intérêt de l'anachronisme au théâtre au fond?
Peut-être le naturalisme et le fait d'actualiser un mythe ne vont pas forcément de pair. Après, moi, je trouvais ça important d'actualiser le mythe parce que j'avais l'impression que si on souhaitait le réentendre aujourd'hui, il fallait faire des analogies pour qu'on puisse le ressentir dans ce que ce mythe a de profondément actuel et qui puisse être raconté aujourd'hui et refaire sens pour nous. Et j'ai l'impression qu'à chaque fois, un mythe, c'est ça, c'est essayer de réinterpréter l'histoire pour qu'elle nous parle et qu'elle donne du sens à ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui.
Est-ce que vous envisagez d'adapter d'autres mythes à l'avenir et si oui, lesquels?
Alors absolument pas, c'est la toute première fois que j'interprète, réinterprète, si je puis dire, un mythe. Et c'est aussi, je crois, parce que c'est un mythe assez méconnu que ça m'intéressait de le faire, parce que j'avais aussi l'impression de le faire découvrir à certaines personnes qui ne le connaissaient pas encore. Mais ça n'est pas un filon que je compte exploiter.
Merci Pauline Salle pour être venue nous présenter Les Deux Déesses. Ce sera à l'Espal le 5 et 6 novembre. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.